La mémoire et l'histoire du cinéma ont beau être distinctes, la première a souvent servi et sert encore à écrire la seconde. Mais quelle histoire? Et en creux, quelle mémoire? Trois modes de pensée et d'écriture de l'histoire du cinéma se font jour en la matière. La première est une histoire des films et de ceux qui les ont faits. Cette histoire s'est d'abord écrite au filtre de la mémoire de ses auteurs. Les premiers historiens ont du reste été, comme le remarquent Bardèche et Brasillac dans la seconde édition de leur Histoire du cinéma, les guides des souvenirs des spectateurs. Les deux écrivains notent, on est en 1942, je les cite, « On pouvait autrefois commencer un livre comme celui-ci en rappelant aux spectateurs de Greta Garbo ou de Charlie Chaplin qu'ils avaient connu la guerre les temps héroïques du cinéma. L'histoire du cinéma, c'était encore leur propre histoire. Quand on leur parlait de Tom Mix ou de Douglas, ils revoyaient une salle décorée comme un manège de chevaux de bois. Ils évoquaient le violon sentimental qui jouait seul tango du rêve. Ils entendaient ce petit bruit semblable à un grésillement qui était le déroulement de la pellicule dans la cabine de l'opérateur et qui fut pendant 20 ans le véritable accompagnement des films. Aujourd'hui, entre ce temps et nous, on a tendu la corde du passé. L'histoire du cinéma, maintenant, c'est de l'histoire. Une génération est venue pour laquelle le cinéma est un art rangé, arrivé. On étudie son enfance comme on étudie la peinture impressionniste. Les Américains ont déjà fondé un institut et préparé leur boîte de fiches. Demain, on commencera des thèses. Le cinéma a levé l'ancre qu'il attachait à nous-mêmes. » Alors, l'essentiel du travail de Bardèche et Brasillac repose cependant sur les souvenirs des films des deux auteurs. Ce n'est pas une histoire remplie d'anecdotes à la manière des ouvrages de Robert Floret, mais ils n'en racontent pas moins, c'est le verbe qu'ils emploient, une histoire qu'ils ont vécue. Donc Robert Floret, qui est un contemporain de Bardèche et Brasillac et qui fait vraiment une histoire, lui a été un acteur d'Hollywood, c'est vraiment une histoire fondée sur des anecdotes, des souvenirs très personnels, explicitement présentés comme des souvenirs. Donc Bardèche et Brasillac, comme la plupart des premiers historiens du cinéma, aident leurs lecteurs à se remémorer leurs propres souvenirs, à les compléter, mais encore à les trier. En effet, cette histoire est une histoire cinéphile. Pour reprendre la typologie de Christophe Gautier dans un article intitulé « Le cinéma, une mémoire culturelle », histoire cinéphile qui trouve son origine dans la critique, se donnant pour mission de séparer le bon grain de l'ivraie. Cette histoire des grands films et des grands hommes, quasi exclusivement des cinéastes, est une histoire du goût, qui reste étonnamment vivace, auprès du grand public du moins, au regard des critiques dont elle a fait l'objet. Parmi ses détracteurs, Francis Lacassin, promoteur dans les années 70 d'une contre-histoire du cinéma, dans laquelle il écrit « Il faut se méfier de l'esclavage du souvenir. Il tend à figer des échelles de valeurs anciennes et des appréciations passées, alors que les idées changent et courent de plus en plus vite. » Je pressentais que l'histoire du cinéma ne trouverait sa rigueur que le jour où elle serait écrite par des générations dépourvues de souvenirs. La contre-histoire de Lacassin est pourtant toujours une histoire cinéphile, simplement ce n'est pas la même cinéphilie. Et si les souvenirs de son auteur ne datent pas de la sortie des films, ils demeurent quand même le matériau privilégié sur lequel il travaille. Même Sadoul, dans une démarche encyclopédique, tentait de dépasser les jugements personnels pour rendre compte de manière aussi complète et complexe que possible de l'histoire du cinéma. Même Sadoul, donc, quand il parle des années 20, qu'il a connu et vécu, s'appuie beaucoup sur ses souvenirs, tout en s'efforçant quand même, c'est la différence avec les historiens qui le précèdent, tout en s'efforçant de confronter ses souvenirs à d'autres sources, témoignages, imprimés, archives manuscrites, et évidemment les films qu'il cherche à revoir. Alors si l'histoire des films est partie du souvenir laissé par ces derniers pour aller vers d'autres sources, l'histoire du spectacle cinématographique a plutôt suivi le chemin inverse. Débutée dans les années 1980 comme une histoire de l'exploitation des salles de cinéma, qui continue d'ailleurs d'exister et de s'enrichir, elle s'est ouverte depuis la prise en compte des publics, des pratiques spectatorielles, donc et plus généralement la prise en compte de l'expérience sociale que constitue le fait d'aller au cinéma. Cette approche du cinéma par le bas, donc par les spectateurs, est attentive à l'inscription du cinéma dans la vie de tous les jours et a conduit à reconsidérer l'intérêt de la mémoire comme source d'histoire. Mais on voit bien pas la même histoire. Alors c'est le cas en particulier des travaux qui s'inscrivent dans le courant de la New Cinema History, qui a émergé dans les années 90 et surtout 2000, des recherches qui ont renouvelé l'approche historiographique, hein, qui ont renouvelé l'historiographie du spectacle cinématographique, en particulier en raison de leur attention à, comment dire, au local et aux identités des spectateurs, identités plurielles dans leur dimension genrée, sociale, minoritaire, etc. Et donc une démarche qui s'est accompagnée d'une réflexion sur les archives et de collecte de sources, en particulier orales. Dans un article revenant en 2011 sur une enquête pionnière menée dans les années 1990, hein, dans le cadre d'un projet intitulé « Cinema Culture in 30 Britain », Annette Kuhn constatait cependant « les souvenirs des personnes interrogées tournaient beaucoup plus autour de l'acte social consistant à aller au cinéma » qu'autour des films qu'elles avaient vus. Les souvenirs de films précis ne constituaient qu'une petite partie de ces souvenirs. En fait, c'est à mieux connaître le rôle social du cinéma à travers les habitudes des spectateurs, appréhendées dans des contextes historiques et culturels précis, que ces souvenirs, croisés avec d'autres sources, ont principalement servi. En témoigne encore un récent numéro de la revue Memory Studies, un numéro entièrement consacré au cinéma, aux souvenirs du cinéma, et dirigé par trois des principaux représentants de la New Cinema History. Donc on retrouve ce type d'approche. Toutefois, et ça transparaît dans ce numéro de Memory Studies, les souvenirs liés au cinéma donnent aussi accès, donnent encore accès à une autre histoire, que j'appellerais une histoire des imaginaires sociaux et des émotions. Alors c'est une histoire qu'on peut qualifier d'histoire culturelle, au sens où l'entend Pascal Horry, l'histoire sociale des représentations, qui se donne pour objet de cerner, dans son acception la plus large possible, la portée sociale du cinéma. Elle s'intéresse en particulier aux imaginaires véhiculés par le cinéma, imaginaires appréhendés à travers les images au sens étroit du terme, c'est-à-dire les films, mais aussi les photographies, les affiches, hein, tout type d'images produites par et autour du cinéma. Mais ces imaginaires, on peut évidemment les étudier aussi à travers les discours et même à travers les pratiques. Donc il s'agit de comprendre la manière dont le cinéma a produit ou participé d'un imaginaire. Dans cette perspective, les souvenirs de films donnent non seulement accès à la formalisation de cet ou plutôt de ces imaginaires, parce qu'on se rend compte très vite que ces imaginaires sont pluriels, mais ils permettent de prendre en compte un élément essentiel à l'étude de ces derniers, à savoir la participation des spectateurs à la production de cet imaginaire. Alors, à cet égard, hein, cette histoire a moins pour objet ce qui a été, c'est-à-dire une expérience passée, que ce qui reste, hein, ce qui imprègne les cerveaux et les corps. C'est une histoire sensible, une histoire des émotions et des affects, plutôt qu'une histoire des faits, des formes, ou des idées. Alors l'étendue de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut étudier avec les souvenirs est donc vaste, et je me suis juste limitée à une perspective historique ici. Dans tous les cas, cependant, donc, il importe d'être attentif à la question des sources. J'en arrive donc à la problématique des sources. Les souvenirs comme sources, tout d'abord. Au centre de l'affiche de la journée, hein, se trouve un magnifique éléphant, animal réputé pour l'excellence de sa mémoire. Hein. Et cette photographie, vous l'avez tout de suite, je pense, reconnue, elle est tirée de... Enfin, c'est une photographie de plateau, donc elle n'est pas tirée justement précisément d'un film, elle est reconstituée à partir d'un film. Et ce film, c'est le deuxième opus de la série des Tarzans avec Johnny Weissmuller, dont je voudrais vous montrer à présent un très court extrait du premier opus. Donc le deuxième, hein, d'où est tirée la photo, c'est Tarzan et sa compagne. Et le premier, c'est Tarzan l'homme singe, qui date de 1930. Tarzan the Ape Man.
Thank you for protecting me.
Me?
I said, thank you for protecting me.
Me?
No. I'm only me. For me.
Me?
No. To you, I'm you.
You?
No.
Jay.
It's Jay. You? Jay.
on s'arrête là. Donc pourquoi je vous passe ce petit extrait ? Parce qu'il illustre l'une des... Alors, pourtant, on présentait diaporama, non, partir de la diapositive actuelle. Voilà, ce petit extrait révèle à ceux qui ne savaient pas qu'à aucun moment, ni en français, enfin ni en anglais, ni en français, je vous épargne la version doublée, Tarzan ne prononce cette réplique célèbre « Moi Tarzan, toi Jane ». Qui serait d'ailleurs absurde à ce stade de l'histoire, parce que Tarzan n'a pas la conscience du moi et du toi, comme vous pouvez le voir dans cet extrait. Alors c'est là un des fameux exemples de répliques inventées dans l'histoire, de répliques inventées, qui n'existent pas au cinéma. On pourrait en citer plein d'autres, hein, Play It Again, Sam dans Casablanca, ou même Luc, je suis ton père dans l'Empire Contre-Attaque. Cet exemple rappelle une évidence, les souvenirs de films ne sont pas toujours fiables. Et il soulève surtout une question, comment fonctionnent ces souvenirs ? Sur quoi et pourquoi se fixent-ils ? Comment se transmettent-ils ? Dans le cas de Tarzan, il semble que la déformation de cette réplique ait pour origine une interview parue dans Photoplay en juin 1932, dans laquelle Johnny Weissmuller déclarait, non sans lucidité, « Je devrais m'en tenir à Tarzan. Voyez-vous, je ne suis pas un acteur. Je ne devrais pas jouer, je n'avais pas à jouer dans Tarzan l'homme-singe, juste à dire « Moi Tarzan, toi Jane ». Je ne serai jamais capable de jouer. » Alors, difficile de comprendre comment, à partir de là, cette réplique s'est imposée dans la mémoire collective. Quoi qu'il en soit, cette déformation signale aussi le rôle que peuvent jouer des éléments extérieurs au film, dans les souvenirs qui leur sont associés, images fixes, magazines et autres. Alors, le manque d'exactitude de ces souvenirs, leur caractère partiels, ils sont incomplets, et partiels, ils sont subjectifs, sont les raisons pour lesquelles ils ont été progressivement rejetés par les historiens. Mais d'une part, ce n'est pas le propre du travail, enfin, c'est le propre du travail de ces derniers, de toute façon, de les recouper, de recouper avec diverses sources, et d'ailleurs, l'écrit n'est pas toujours plus fiable. Et d'autre part, je dirais que ces caractéristiques, souvenirs partiels et partiels, ne sont un problème que si l'on cherche à attribuer au souvenir une valeur purement factuelle. Or, ces souvenirs sont à prendre pour ce qu'ils sont, à savoir des discours à la fois interprétation et réinvention qui entremêlent l'évaluation critique, la mémoire, l'imagination, voire le désir, comme le soulignent Claire et Fabien dans l'introduction de l'ouvrage qu'ils ont dirigé sur les récits de spectateurs et qui vient de paraître au début de l'année. L'éventuel décalage donc, des souvenirs par rapport au réel, leur propension à la recréation, parfois à la sublimation, sont à analyser en tant que tels, ce qui implique d'interroger les fonctions de ces souvenirs et d'être très attentif aux manières dont ils prennent forme. Alors, ce qui nous conduit à la question des sources des souvenirs. Premier constat, celui de la diversité extrême de ces sources, qui peuvent être écrites, orales, filmiques, voire iconographiques, mais encore, suivant une autre typologie, produites de manière spontanée ou suscitées, recueillies dans le cadre d'une recherche précise, par exemple les enquêtes de la New Cinema History. Chaque catégorie énoncée est elle-même plurielle en plus. Par exemple, les récits peuvent prendre la forme d'articles de presse, de journaux intimes, de correspondances, de textes littéraires, et la liste voilà, n'est pas exhaustive. Pour resserrer le cadre de cette journée, on se focalisera sur les récits de spectateurs, mais on pourrait très bien imaginer, par exemple, une autre journée consacrée à l'étude des souvenirs des films dans les films, y compris les films de fiction. Alors, cette notion de récit sera prise néanmoins dans une acception très large. L'activité du spectateur, comme le note Marie-Madeleine Mervanroux, fonctionne par fragmentation et recomposition sur un mode narratif, et c'est vrai en particulier des souvenirs. De ce point de vue, on pourrait presque dire, dès qu'il y a souvenir, il y a forcément d'une manière ou d'une autre récit. On sera donc très attentif à la mise en récit, autrement dit à la façon dont sont organisés ces fragments, que sont les souvenirs, pour donner lieu à une narration plus ou moins cohérente, qui elle-même suit des règles, des codes, qui diffèrent en fonction du contexte d'énonciation. Alors, ces récits sont ceux de spectateurs, et là aussi, voilà, on va largement ouvrir cette catégorie. Il sera question d'experts de cinéma comme de spectateurs ordinaires, pour reprendre le terme désormais en usage dans les études cinématographiques, pour désigner les spectateurs qui n'ont pas fait métier, profession de parler du cinéma. Donc, de personnalités connues comme de simples coups d'âme. Dans tous les cas, et c'est ce qui exclut la critique en tant que telle de notre propos, hein, les films sont appréhendés dans les souvenirs au filtre d'une expérience qui est avant tout affective. Alors, ces affects, cette subjectivité, je le disais tout à l'heure, ne sont pas un obstacle à la connaissance dès lors qu'on ne réduit pas les souvenirs à une source factuelle, mais qu'on les considère pleinement comme un objet d'étude. Ce sera mon dernier point. Cette perspective, qui déborde la seule approche historique, conduit à s'intéresser à l'expérience sensible du spectateur du cinéma, de l'intime au social. Alors, aux antipodes du spectateur théorique, longtemps privilégié par la recherche en cinéma, les souvenirs de films impliquent de se pencher sur des spectateurs et des spectatrices bien réels, en prenant en compte leur identité individuelle et le contexte dans lequel ils évoluent. Dans l'intimité des publics, appropriation et usage personnel des images audiovisuelles, c'était d'ailleurs le thème de la première journée du GREPS, dont je vous parlais tout à l'heure, où on croisait déjà, sans qu'elle soit centrale, la question des souvenirs. En faisant de celle-ci l'enjeu de la présente journée d'études, hein, on souhaite pleinement inscrire la mémoire comme agent de l'activité spectatrice, pour reprendre une formule de Fabien et de Claire dans l'ouvrage que je citais précédemment. En s'efforçant de comprendre ce que passer le temps de la projection et la distance temporelle avec la projection est sans doute un facteur important à prendre en compte, hein. Donc en s'efforçant de comprendre ce que les spectateurs et les spectatrices se sont appropriés au sein des films, on en vient à étudier la manière dont ces hommes et ces femmes vivent avec le cinéma. À cet égard, hein, les récits des souvenirs de spectateurs sont, comme tout souvenir, des récits de soi, hein, dans lesquels les spectateurs livrent plus ou moins consciemment, plus ou moins ouvertement, des autoportraits d'eux-mêmes. Pour autant, ces spectateurs ne sont pas isolés. Bien au contraire, hein, quand il est question de cinéma. D'ailleurs, dans l'introduction du numéro de Memory Studies, hein, que je citais tout à l'heure, les auteurs constatent « Les souvenirs de cinéma sont exprimés sur un mode collectif davantage qu'individuel ou personnel. » Les personnes interrogées tendent à s'impliquer dans leurs souvenirs en utilisant le « nous » davantage que le « je ». La récurrence de cet usage du « nous » signale combien le cinéma est vécu d'emblée comme une expérience collective et partagée. En même temps, il ne dit rien des contours de ce collectif. Ce qui fonde le partage, c'est d'abord la proximité avec les autres spectateurs avant, pendant, après la projection. C'est également l'appartenance à un groupe social. À bien des égards, les souvenirs de films témoignent d'identité collective. Leurs récits sont bien souvent aussi des récits familiaux, des récits générationnels, les récits d'une époque. Les étudier de manière contextualisée permet d'approcher les différentes réalités, et ce qui est réellement partagé au cinéma avec d'infinies variations dues à la pluralité des expériences. Prendre les souvenirs de films comme objet de recherche, c'est ainsi mettre au jour le pouvoir que le cinéma à d'évoquer le passé, de le rendre sensible dans un présent qu'il a déserté. Le cinéma, on le sait, a été très tôt considéré comme le royaume des ombres, l'art des fantômes, car les films enregistrent une réalité dont ils restituent le caractère vivant bien après sa disparition, semblant donner vie aux morts. Or, les souvenirs ont eux-mêmes le pouvoir de réveiller un passé révolu. J'en donnerai pour illustration le fait que voilà, l'affiche de la journée d'études m'a valu des tas de retours sur « ça me rappelle mon enfance », des souvenirs précis de séances voilà, en famille, au cinéma. Donc, à l'échelle non plus d'un individu, mais d'un pays, c'est également ce que met en évidence le sommeil d'or sur lequel se terminera la journée. Donc, dans un documentaire dans lequel le réalisateur, Davy Chou, part à la recherche du cinéma cambodgien détruit par les Khmers rouges. Donc, il en traque les traces matérielles, les rares vestiges, et il en réveille surtout le souvenir à travers les témoignages de ceux qui l'ont connu et qui ont survécu. Son film montre combien la destruction du cinéma, c'est la destruction d'une partie de la mémoire et donc de l'identité du Cambodge, mais il montre dans le même temps comment les souvenirs de ces films permettent malgré tout d'en faire revivre l'esprit. Et c'est là le plus extraordinaire peut-être, hein, des souvenirs de films, leur capacité à faire partager par-delà l'espace et le temps une expérience spectaculaire, intime et sociale à des personnes qui ne l'ont pas vécue. Car ces souvenirs s'ancrent dans un contexte historique précis, ils ne sont pas enfermés dans ce contexte. Par leur dimension affective même, ils peuvent nous rendre accessible et compréhensible une expérience lointaine, une expérience passée. Donc l'objectif de cette journée n'est pas de proposer une nouvelle histoire du cinéma reposant sur les souvenirs des spectateurs, hein. Elle est de comprendre les fonctions et les significations, à la fois individuelles et collectives, intimes et sociales, des souvenirs de films, de sorte à appréhender le pouvoir que le cinéma a d'évoquer, au sens quasi spirituel du terme, le passé, qu'il s'agisse d'une époque, d'un moment de la vie, d'une émotion évanouie, que ces souvenirs peuvent faire renaître. L'objet qui nous intéresse aujourd'hui est particulièrement difficile à appréhender, donc on sera très attentif aux questions de sources, de méthodes. Le fil rouge de la journée étant le mécanisme des souvenirs, soit la manière et les formes, les images et les mots dans lesquels, à travers lesquels ces souvenirs se cristallisent, ce sera l'objet plutôt de la matinée, puis dans lesquels ils se réaniment, se transmettent, se répondent, ce sera plutôt l'objet de l'après-midi.